Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com.
Come on, higher, higher, I want to see the legs.
Au sommaire aujourd'hui, une émission spéciale sortie bouquin dans laquelle nous irons à la rencontre de l'historien William Blanc au sujet de plusieurs ouvrages de William Morris parus chez Libertalia. Très récemment, une nouvelle traduction de Nouvelles de nulle part qu'il postface, et puis La défense de Guenièvre que là il préface. Donc c'est avec William Blanc que nous aborderons ces deux ouvrages de William Morris parus chez Libertalia. Nous ferons un petit tour chez Playlist Society pour aborder un ouvrage d'Élise Lépine qui s'appelle DOA, rétablir le chaos. Et enfin, nous irons à la rencontre de Séverine Danflou et Pierre-Julien Marest au sujet de leur ouvrage Busby Berkeley, l'homme qui fixait des vertiges, paru chez Marest Éditeur. L'équipe de Culture Prohibée remercie bien évidemment Séverine Danflou, Pierre-Julien Marest, ainsi que William Blanc, et également Benjamin Fogel. Nous les remercions grandement pour leur aide sur cette émission. Nous vous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur theextasyoffilm.com, sur celui des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr, et chez tous les bons libraires. William Blanc, pour nos plus anciennes auditrices et anciens auditeurs, fut un chroniqueur de Culture Prohibée. Il est également un historien de garde, il est également auteur de quelques livres de référence parus chez Libertalia, dont nous avons longuement parlé dans l'émission Arthur, un mythe contemporain, Winter is Coming, une brève histoire politique de la fantasy, Les super-héros, une histoire politique, et plus récemment, un dictionnaire du Moyen-Âge imaginaire, le médiévalisme hier et aujourd'hui, paru chez Vendémiaire, qu'il a co-dirigé avec Anne Besson et Vincent Ferré. Et là, il se trouve que notre ami William Blanc donc, a travaillé sur deux ouvrages de William Morris. Tout d'abord, la republication du poème La défense de Guenièvre, pour un féru du mythe arthurien, hein, qui a quand même écrit le livre de référence sur le sujet en France avec Arthur, un mythe contemporain. Il était tout à fait normal que William Blanc s'intéresse au travail de William Morris, socialiste anglais du 19e siècle, utopiste s'il en est. Et La défense de Guenièvre étant quand même un point de vue féministe sur la légende arthurienne, inutile de vous dire qu'à l'époque, ce n'était pas ce qu'il y avait de plus répandu. Et puis, autre ouvrage de William Morris, ce fameux ouvrage, hein, les Nouvelles de nulle part, hein, qui est un ouvrage culte, hein, de la SF, de la fantasy, et qui raconte effectivement l'errance d'un homme qui va se réveiller, qui va se voir bien, bien longtemps après l'époque à laquelle il vit, en particulier à l'époque d'après les révolutions, c'est-à-dire dans un monde débarrassé du capitalisme. Alors, pour discuter de tout cela, on va tout de suite joindre William Blanc, l'historien William Blanc, qui a donc participé à l'édition de ces deux livres. Alors, je vous préviens tout de suite, chères auditrices et auditeurs, on a un petit problème technique, hein, sur cette liaison téléphonique que l'on a essayé de régler avec l'ami William, mais de temps en temps, vous percevrez un petit son désagréable. Nous nous en excusons. Voilà. En tout cas, voilà. Donc, William Blanc, tout de suite, au micro de Culture Prohibée. Est-ce que tu peux présenter à nos auditrices et auditeurs, qui ne savent pas forcément qui il est, qui est William Morris ? Parce que William Morris, c'est vraiment un personnage un peu singulier dans tous les socialistes là, du 19e, parce que ne serait-ce que parce qu'il était, on va dire, multicarte quelque part, quoi.
C'est le moins qu'on puisse dire, en effet. Il était multicarte. Il était multicarte déjà parce qu'en fait, bon, pour simplifier, moi je dis toujours quelque part que William Morris est un peu un des inventeurs de la fantasy. C'est-à-dire sans Morris, sans l'influence qu'il a eue, parce qu'il n'est pas très connu en France hein, d'ailleurs. Donc, sans Morris, donc Morris il est né en 1832 et mort en 1896, donc c'est vraiment un homme du 19e siècle. Mais sans Morris, il n'y a pas, de Tolkien, il n'y a pas de C.S. Lewis, hein, donc l'inventeur de Narnia, voilà quoi. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a eu une énorme influence sur ces auteurs-là, même si ces auteurs-là, pour le coup, en fait, hein, Morris en effet était socialiste, très très engagé, en fait, hein, voilà, donc clairement quelqu'un qui croyait en la révolution socialiste et tout, donc qui a connu Engels, voilà, enfin qui a échangé avec Engels, qui a échangé avec pas mal de grandes figures du socialisme de son époque. Qui était aussi proche de Kropotkin, qui était lui un penseur anarchiste, en fait. Hein, donc, voilà, sans ce personnage-là, des auteurs comme Tolkien ou C.S. Lewis, et puis après plein d'autres, en fait, hein, auraient pas existé, ou en tout cas auraient pris des chemins différents. Voilà, donc c'est pour ça, en fait, alors c'est assez intéressant, parce que depuis environ... Ouais, je sais pas, en gros, 10-15 ans, en fait, on redécouvre, quelque part, en France, Morris. Il avait été édité au début 20e siècle, notamment son Utopie, hein, Les Nouvelles de Nulle Part, avait été édité, notamment chez les maisons d'édition socialistes, en fait, hein, donc, en France. Et puis après, il avait été en grande partie oublié, à part par des universitaires qui travaillaient la littérature britannique. Tout bêtement, en fait, hein, depuis voilà, environ une quinzaine d'années, il est redécouvert. On s'intéresse de plus en plus à lui. Parce que c'est vraiment un des précurseurs de la fantasy. Et là-dessus, il faut saluer aussi le travail d'un autre éditeur, hein, Les Forges de Vulcain, qui a édité plusieurs de ses. Et vraiment, qui a édité et traduit pour la première fois, en fait. Hein, plusieurs de ses romans de fantasy, en fait, hein, dont plusieurs d'ailleurs que j'ai eu le plaisir de préfacer, hein, donc on peut en citer un paquet, hein, donc Le Lac aux îles enchantées par exemple, en fait, hein, donc La Source au bout du monde qui était préfacée par Anne Besson, tout ça c'est voilà, vu que la fantasy est devenue un genre très populaire en France, il y a des éditeurs qui ont commencé à s'intéresser à nouveau à Morris, hein, ou même tout bêtement à s'intéresser. Aussi, il y a un autre bien en fait, hein, qu'il a fait redécouvrir et qui a a priori rien à voir, mais pourtant ça a à voir. J'expliquerai pourquoi après. Il est redécouvert notamment dans des milieux plutôt écolo, décroissants et tout, en fait, hein, parce que et c'est vraiment quelqu'un qui est assez étonnant pour son époque. Morris, même s'il est clairement influencé par le marxisme, par le socialisme, Morris a aussi une pensée qui est très voilà, qui est très forte en Angleterre. Il est très sensible à la destruction du paysage par l'industrie voilà hyper capitaliste et tout. Donc ça, pour lui en fait, hein, c'est quelque chose. Il est très sensible à ça. Et donc une partie de ses écrits, une partie de son travail. Parle de ça aussi. Quoi. Donc voilà, il y a une espèce de double redécouverte de Morris, hein, aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça a culminé parce que l'année dernière, il y a environ, ça s'est terminé il y a un peu plus d'un an, en fait, hein, donc, à la piscine de Roubaix, donc au musée à Roubaix, hein, donc pas très loin de Lille, il y a eu une très belle expo, hein, sur William Morris, parce qu'en plus, hein, comme tu dis, c'est quelqu'un de multicarte. Parce que non seulement c'est un militant, non seulement c'est un auteur, donc il écrivait à la fois des textes poétiques, des fictions, de fantasy, mais aussi c'est un peintre, c'est quelqu'un qui va être éditeur, c'est quelqu'un qui va faire beaucoup dans les arts, enfin qui va beaucoup travailler les arts décoratifs notamment. Voilà, donc en fait c'est un peu une espèce de touche à tout. Si on veut chercher un point de comparaison avec un personnage en France, qui est à peu près de cette époque, en fait, hein, on peut penser à Victor Hugo, en fait, hein, qui était aussi quelqu'un qui était une espèce de, de type voilà un peu touche à tout, très progressiste et tout quoi. Donc voilà. Et un autre aspect de Maurice, enfin voilà, de toute façon on pourra en parler pendant des heures, un autre aspect de Maurice qui est encore plus fascinant, surtout pour quelqu'un du 19e siècle, c'est que c'est aussi quelqu'un qui est très sensible à la condition des femmes. Et d'ailleurs, hein, donc le texte dont tu as parlé, La Défense de Guenièvre, en fait, hein, donc c'est un poème qui publie en 1857, donc très tôt, il est très jeune. Et en fait, c'est le premier texte arthurien, en fait, hein, sur le mythe arthurien, mais féministe, hein, vu que c'est cette fois Guenièvre, hein, donc la reine Guenièvre, qui est accusée d'adultère avec Lancelot. Et donc là, Maurice donne la parole à Guenièvre, il fait parler Guenièvre, et Guenièvre se défend. En disant, voilà, en gros, concrètement, elle dit, laissez-moi vivre ma vie, en fait, hein, j'ai été mariée de force, hein, et j'ai envie... j'ai envie de laisser moi désirer qui je veux, en fait. Hein. Ce qui, en 1857, dans une société victorienne très corsetée, hein, c'est le cas de le dire, hein, où en fait la condition des femmes est extrêmement dure. Hein. Il y a tout un discours à l'époque où on dit les femmes, faut pas que les femmes sortent, notamment les femmes de la bourgeoisie, il faut pas qu'elles sortent, il faut pas qu'elles soient. Voilà, il faut surtout pas. Enfin, si elles commencent à avoir un désir pour un homme, c'est que c'est le début de la fin, donc c'est le début de la chute, en fait. Hein, donc, il y a un discours très, très misogyne. Hein, c'est vraiment une cité extrêmement misogyne, la cité victorienne. Et voilà, là, dans cette société-là, apparaît donc, le texte de William Morris, qui est absolument fascinant. Et c'est vraiment, pareillement, dans le Lac aux Inuits enchantés, en fait, hein, donc, qui est un texte, cette fois, qui a été écrit en 1896, donc là, 40 ans après, hein, donc... qui est publié l'année de la mort de Maurice, c'est pareil, c'est assez fascinant parce que c'est un texte dont le personnage principal est une femme, et une femme qui n'hésite pas à se battre, qui vit des aventures, qui cherche à se libérer, notamment d'hommes tyranniques et tout. Et donc, c'est assez fascinant de lire des textes comme ça, écrits au 19e siècle, surtout si on regarde l'actualité contemporaine. En fait, hein, donc, et encore une fois, c'est écrit par un homme, au 19e siècle, dans une société extrêmement misogyne.
Vous écoutez l'historien William Blanc au sujet des ouvrages de William Morris parus aux éditions Libertalia au micro de Culture Prohibée. Dans ta présentation, William, de La Défense de Guenièvre de William Morris, tu abordes aussi le fait que quand il écrit La Défense de Guenièvre, hein, ce que tu disais, il donne quand même la parole à la femme adultère qui effectivement n'était pas ce qui se faisait le plus couramment à l'époque. Y avait dans la société victorienne un débat sur le mariage, et ça, tu en parles dans ton introduction à l'ouvrage paru chez Libertalia.
Oui, bah c'était oui. Alors, il y a cet aspect-là. Bon, de toute façon, encore une fois, il y a vraiment dans la société victorienne au 19e siècle un stéréotype, hein, donc de la. Il y a non seulement des débats de société, en fait, hein, donc. Et dès qu'on commence un peu à vouloir donner une espèce de début de simili-liberté aux femmes, il y a une levée de bouclier énorme. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, ce qui est assez fascinant, c'est que vraiment, il y a un stéréotype très puissant à l'époque victorienne, hein, c'est ce qu'on appelle la femme déchue, en fait, hein, the fallen woman, ce qui fait qu'il y a vraiment cette peur que si une femme commet un adultère ou commet une faute avec un autre homme et tout, donc non seulement elle va chuter, hein, à la fois moralement et socialement, hein, c'est un discours évidemment très religieux, mais aussi qu'elle va entraîner sa famille avec elle. Et il y a vraiment cette idée-là, et ce qui fait que le poème de Maurice, hein, quand il est sorti, il n'a pas connu un très grand succès, hein, faut dire ce qui est, en fait, hein, donc c'était quelque chose d'assez, enfin, c'était une œuvre assez marginale. Hein. Il va connaître, Maurice va connaître le succès quelques années plus tard, en fait. Hein, donc, mais ce qui est assez fascinant, c'est que quelques années après, je crois que c'est en 1859, Tennyson, qui lui est un autre poète, un victorien, mais lui est très reconnu et aussi très conservateur, va sortir sa propre version du mythe arthurien, dans lequel, en fait, hein, il explique, hein, vous vous rappelez, en fait, hein, dans le mythe arthurien, en fait, hein, Arthur, il a Camelot, il a un royaume, après, la quête de l'échec de la quête du Graal, tout s'effondre, hein, il y a une guerre et tout. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Et lui, Tennyson, il explique la chute de Camelot par l'adultère, hein, par la relation adultère entre Lancelot et Guenièvre. Il dit en gros, et non seulement c'est de la faute de cette relation-là, mais c'est spécifiquement la faute de Guenièvre. Et il y a une scène, hein, d'ailleurs on a mis une image, hein, dessinée par une gravure de Doré, en fait, de Gustave Doré, hein, qui illustre donc ce poème de Tennyson, quand il est traduit en français. Eh bien, en l'occurrence, on voit vraiment Arthur arriver devant Guenièvre et Guenièvre s'écrouler, mais face contre terre, au sol, devant Arthur. Donc c'est vraiment l'image vraiment très stéréotypique de l'époque. Et c'est contre ça, quelque part, contre cette espèce d'ambiance extrêmement pesante, hein, extrêmement sexiste, que Maurice... c'est contre cette ambiance que Maurice, en fait, se soulève quelque part et écrit, en fait, il écrit en réaction à ça. Et ça va, encore une fois, ça va aller très loin. Hein. C'est quelqu'un qui va beaucoup faire... C'est un thème qui va souvent revenir, hein, dans ses écrits, et notamment, il a dit dans ce roman Le Lac aux Îles Enchantées, et donc il a écrit en 1896, et c'est assez fascinant de voir que à peu près à la même époque, Maurice commence à avoir des contacts, et avec ce qui vont devenir, en fait, hein, les premières féministes. Et donc les suffragettes, en fait, hein, donc ce qu'on appelle les suffragettes, qui vont donc militer au début du XXe siècle pour le droit de vote des femmes, notamment dans l'Empire, enfin en tout cas en Angleterre. Donc c'est vraiment un thème qui est très présent chez Maurice, et vraiment, vraiment c'est particulièrement fascinant de voir ça. Enfin voilà, je sais que j'insiste beaucoup là-dessus, mais sous la plume d'un auteur du 19e siècle.
Justement, cet auteur du 19e siècle, donc William Morris, il est à l'honneur là, d'une nouvelle traduction, des Nouvelles de Nulle Part, hein, donc toujours aux éditions Libertalia, que tu postfaces cette fois-ci. Et là, c'est pareil, alors, Nouvelles de Nulle Part, c'est un ouvrage dans lequel William Morris, alors ça on pourrait en discuter aussi, décrit une société utopiste. Si on se fie à peu près à la chronologie du bouquin, c'est la société qui devrait être la nôtre aujourd'hui. Bon, on en est loin, voilà. Ouais. Une société qui est celle d'après la Révolution. Et ce livre... Alors, qui raconte l'histoire, en gros, d'une rêverie, d'un homme qui va se retrouver dans le futur, enfin, qui va se voir dans le futur. Ce livre, surtout, il porte des choses, effectivement, très progressistes, mais qui sont... alors, il y a la fin du mariage, le règne de l'union libre, le règne du beau. Il y a des utopies qui sont portées par beaucoup de socialistes du 19e siècle qu'on va retrouver dans ce livre. Des socialistes, des communistes, des anarchistes, enfin, voilà, des libertaires, mais... Il y a quelque chose, moi, qui m'a étonné à la lecture de ce livre, c'est le fait que, t'en parlais un peu tout à l'heure, c'est l'un des premiers à parler d'écologie avec cette végétalisation de la ville, quoi.
Ouais, alors c'est assez fascinant. Alors, il faut bien comprendre que quelque part, alors, et encore une fois, là, je fais le lien avec Tolkien. Hein, donc Tolkien, hein, quand il écrit Le Seigneur des Anneaux, son roman, donc en 1954-55, il commence le roman par trois chapitres. Et d'ailleurs, je pense que moi, comme plein de gens, moi j'ai lu ces romans-là quand j'étais ado. Les trois premiers chapitres, ils sont un peu bizarres, en fait, on les comprend pas, on trouve que c'est un peu, c'est même un peu chiant, en fait, voilà, parce qu'il décrit pendant trois chapitres la société des Hobbits. Hein, donc les petits hommes, là, voilà, qui font 90 cm de haut, voilà, donc, et qui vivent dans une espèce de société champêtre, où il n'y a quasiment pas d'État, où il n'y a pas de technologie et tout. Et vraiment, quand on lit ces trois chapitres-là, après avoir lu, ou quand on relit ces trois chapitres-là, après avoir lu Les Noms de Nulle Part, on se rend compte qu'il y a une véritable filiation. Pourquoi ? Même si Tolkien était conservateur, encore une fois. Hein. Mais parce que, pour Morris, voilà, il idéalise, comme Tolkien, la société pré-industrielle. Il dit en gros, à l'époque pré-industrielle, les gens, notamment au Moyen-Âge, dans les villes, les gens étaient libres de leur travail et tout. Alors, je schématise un petit peu, hein, il est beaucoup plus nuancé que ça, sur plein d'aspects, évidemment. Hein, donc, mais il y a une véritable fascination, notamment pour le travail artisanal. Et il oppose la liberté de l'artisan, qui est libre, ou de l'artisane, qui est libre de créer ce qu'il veut, en fait, hein, qui a de la joie dans son travail, à l'aliénation de l'ouvrier qui travaille à la chaîne, en usine. Et donc, après, tout devient un peu... Voilà, il fait une opposition binaire, en fait. Hein, donc, l'artisan est lié à la campagne. Voilà, donc, l'ouvrier est lié à la ville. Voilà, donc, la ville est polluée. La campagne, on est au grand air et tout. Et donc, toute l'action du roman, donc le type... voilà, ça parle d'un narrateur qui, en effet, voyage, hein, comme dans un rêve, dans le futur... Et il se retrouve chez lui, mais dans le futur, et en fait, il s'aperçoit que Londres, en fait, Londres, qui est à l'époque une des plus grandes villes au monde, en fait, hein, et une des plus polluées, Londres a réduit en taille. Et en plus, non seulement elle a réduit en taille, mais en fait, l'action du roman, en fait, hein, si on regarde bien, en tout cas, l'action de la seconde partie de Noël de Nulle Part, c'est un voyage depuis Londres vers la campagne. Et en suivant le fil de la Tamise, en remontant la source de la Tamise. Et il y a vraiment cette idée, hein, chez Maurice, de dire, voilà, en gros, la société du futur, quelque part, elle doit être socialiste, il doit y avoir plein de progrès qui doivent être faits, mais aussi, on doit, quelque part, éliminer tout le superflu qui a produit le capitalisme, notamment l'aliénation consumériste et tout, et notamment le fait de vouloir, ça, il insiste beaucoup là-dessus. Il n'est pas le premier à le faire, il n'est pas le seul à le faire, mais lui, il en parle particulièrement, enfin vraiment, c'est... Et il dit, voilà, le capitalisme produit des objets en masse, il les produit à la chaîne, et donc c'est de la laideur, en fait, il produit de la laideur. Quelque part, pour retrouver de la beauté, il faut retrouver l'artisanat, en fait, hein, et notamment le plaisir de créer, le plaisir du travail pour soi, en fait, voilà. Donc, et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans Les Noms de Nulle Part, parce que dans Les Noms de Nulle Part, les gens redeviennent quasiment tous artisans. Ils sont contents d'aller au boulot, en fait, hein, ils sont contents de travailler parce qu'ils travaillent pour eux, en fait, voilà. Donc, et ils travaillent pour leur communauté. Hein. Et par contre, il y a une grande différence, justement, avec les socialistes de son époque, parce qu'il y a à l'époque, hein, d'autres utopies socialistes, hein, il y en a un paquet, en fait, hein, donc beaucoup de gens en écrivent, parce que beaucoup de gens pensent, hein, que la révolution va bientôt arriver, et ils imaginent ce que doit être, hein, le futur, en fait, hein, donc, mais notamment, enfin, dans beaucoup de ces utopies-là, en gros, le futur est hyper industriel. En gros, la société devient socialiste en devenant encore plus industrialisée, en fait. Hein. Et notamment, c'est le cas d'une autre utopie, hein, qui a été publiée un an avant Les Noms de Nulle Part, et auquel réagit Maurice, en fin de compte. Hein. C'est l'utopie d'Edward Bellamy, hein, qui s'appelle Un regard en arrière, et Bellamy, c'est un Américain, qui est, hein, voilà, un auteur socialisant. Voilà, donc, et lui, il rêve vraiment d'un futur où, en gros, tout est accessible grâce à à l'hyper-industrie, quoi, en fait. Hein, donc, voilà. Et donc, Maurice lui dit, moi, j'y crois pas deux secondes, en fait, hein, cette histoire-là. Pour moi, trop de technologie, en fait, hein, l'envahissement par la technologie, ça peut être nocif au bout d'un moment. Maurice ne refuse pas la technologie. D'ailleurs, dans Les Noms de Nulle Part, il y a même un passage assez étonnant où il parle sur la Tamise, de barges, en fait, hein, qui sont des barges, en fait, hein, mues par une force électrique. Après, voilà, donc, il n'explique pas trop pourquoi, comment, en fait, hein, donc, mais voilà. Mais il n'est pas contre la technologie, mais il refuse, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui le techno-solutionnisme, en fait. Hein, c'est assez fascinant, en fait, de voir qu'il avait des intuitions qui étaient extrêmement pertinentes pour nous aujourd'hui, parce qu'il dit, en gros, bâtir un monde meilleur ne passe pas par un excès de technologie, en fait, hein, une espèce d'inflation de la technologie. Il passe d'abord par des choix éthiques, moraux et politiques. Voilà. Et parmi ces choix éthiques et moraux et politiques, c'est évidemment quelque part, de revenir à la campagne, de sortir des villes polluées, de retrouver un sens au travail, non pas un sens où il faut produire pour acculer du capital, mais il faut en effet travailler pour son propre plaisir avant tout, quoi, et pour produire du beau, quoi, de la beauté. Et ça, c'est vraiment des réflexions que je trouve vraiment très, très modernes, en fait, hein, donc très contemporaines par rapport à plein de questions qu'on peut se poser aujourd'hui.
Vous écoutez Culture Prohibée. Nous vous rappelons que les deux ouvrages que l'on vient d'aborder avec William Blanc, à savoir La Défense de Guenièvre et Nouvelles de Nulle Part, Nouvelles au pluriel, sont disponibles chez Libertalia. Ils sont signés William Morris et nous vous invitons à les lire de toute urgence. Comme nous vous invitons à lire un livre, si vous êtes fan de romans noirs, un livre assez qui délivre une parole assez rare, puisque c'est la parole du fameux DOA. DOA qui a, comment dire, que même avec nous, Culture Prohibée, c'est un rendez-vous manqué, DOA, parce qu'il devait venir dans cette émission au Monde Pouctou, et puis ça s'est pas fait, à mon grand regret. Voilà, j'aurais bien aimé échanger avec lui. Et... là, il y a Élise Lépine, hein, qui, pour les éditions Playlist Society, a réalisé un livre d'entretien avec donc DOA, qui s'appelle « DOA, rétablir le chaos ». Et donc, j'étais très impatient de lire ce livre, puisque, à part avoir échangé quelques mails avec lui, je ne me suis jamais entretenu avec DOA. Et c'est un livre qui fait le pari donc, de nous faire découvrir qui est DOA. Donc non, DOA n'est pas un agent secret. Non. Il y a beaucoup de fantasmes autour de DOA, vu que ces livres sont très très bien renseignés. On découvre un tout autre portrait en fait de quelqu'un qui a bossé dans l'industrie du jeu vidéo, qui a bossé avec David Bowie. Enfin, le portrait de quelqu'un qui était d'ailleurs pas forcément destiné à faire du roman noir surtout, hein. Et qui a écrit pas mal de choses en fait, enfin, qui a écrit quelques bouquins quand même avant ces romans noirs, qui a écrit quelques bouquins teintés de fantastique. D'ailleurs, il explique dans le livre, c'est un moment très drôle. Parce qu'il va co-signer cet auteur, l'Honorable Société, avec Dominique Manotti, plus pour l'aspect technique d'ailleurs, parce que Dominique Manotti, qui est venu régulièrement dans cette émission, que l'on salue, à quand un nouveau livre de Dominique Manotti, hein, qui est mon autrice, moi, française préférée, quand il la rencontre dans un salon du livre, il veut lui dire toute l'admiration qu'il a pour elle, grande écrivaine, hein, devant l'éternel, hein, et en fait, elle le snob parce qu'il il fait du fantastique, et visiblement, elle aime pas du tout le fantastique et la science-fiction. Dominique Manotti, en tout cas, c'est ce que dit DOA, elle aime ce qui est ancré dans le réel. Voilà. Mais ce qui va faire qu'ils vont se rapprocher, en fait, c'est que DOA vient de l'industrie du jeu vidéo, maîtrise très bien l'outil Internet. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a très peu de choses qui fuitent sur lui sur le net, parce qu'il sait se protéger. Et que donc, elle va avoir besoin de lui pour l'Honorable Société, qui est aussi un polar avec un côté thriller technologique, hein, et qui traite des... à ce qu'on appelait à l'époque des nouvelles technologies, voilà. Et donc c'est pour ça qu'il va lui donner un coup de main, et lui-même dit qu'il va beaucoup apprendre à son contact, en fait, en termes d'écriture, donc ça c'est très très intéressant. Alors, je ne vais pas vous détailler tout le parcours, hein, je vais vous inviter à lire le livre, hein, parce que sinon je vais vous dévoiler trop de choses, hein, mais disons qu'on part vraiment avant ses premiers livres, hein. Ses premiers livres, c'est Les Fous d'Avril et La Ligne de Sang, qui sont des livres aujourd'hui devenus cultes d'ailleurs, parce qu'ils sont signés DOA, mais que lui-même semble considérer comme un peu mineur dans ce qu'il a fait, quoi, hein, et qui ont constitué des étapes dans son chemin vers son cycle clandestin avec Le Serpent aux mille coupures et Les Deux Pouctou, hein. Et puis surtout, il revient aussi longuement sur l'Ikaya, son dernier livre, qui n'a pas rencontré par contre là un gros succès, qui est un livre sur l'univers du sadomasochisme, et pour lequel il s'est énormément renseigné, et il raconte des choses assez glaçante, mais alors vraiment glaçante, parce qu'il est allé au-delà de l'imagerie BDSM, un peu chic et choc que l'on peut voir régulièrement dans le domaine du sadomasochisme, et il s'est rapproché de sadomasochisme qui sont très extrêmes et qui pratiquent même de la chirurgie, c'est-à-dire en s'amputant de membres ou des choses comme ça. Donc il raconte des choses à ne pas mettre devant tous les yeux, il faut avoir l'estomac bien accroché. Et donc ben, vous avez compris, hein, ce livre... pour découvrir vraiment qui est DOA, même s'il ne se livre pas complètement, hein, ça reste DOA, mais pour découvrir qui est DOA, qui avait déjà le même pseudo bien avant d'écrire des livres, il faut le savoir, tout simplement bah, Dead on Arrival, hein, en hommage au film noir, eh bien DOA, rétablir le chaos, vous en saurez beaucoup plus si vous lisez ce livre d'Élise Lépine paru chez Playlist Society, que donc on vous conseille vivement. On va terminer cette émission avec un livre de cinéma là, de ce début d'année 2024 qui, pour moi, est un véritable coup de cœur. Alors, vous savez que j'adore Busby Berkeley, j'en ai déjà parlé dans cette émission, pas assez souvent à mon goût, mais enfin, bon, l'actualité ne s'y prêtait pas forcément. Alors là, quand il y a un livre sur Busby Berkeley qui sort, évidemment que je vais me faire un plaisir d'en parler dans l'émission. Alors, ce livre donc, s'appelle Busby Berkeley, l'homme qui fixait des vertiges, évidemment en référence à tous ces plans zénithaux de Busby Berkeley, chorégraphe de génie, metteur en scène incroyable, parmi l'un des plus inventifs du Hollywood des années 30. Et ce livre est signé Séverine Danflou et Pierre-Julien Marest. Il est préfacé par Alain Masson. Il est donc disponible chez Marest Éditeur. Et Busby Berkeley, ben ce cinéaste donc de génie, ce chorégraphe de génie, cet entertainer génial, quoi, voilà, qui est un peu tombé dans l'oubli. On va parler de tout ça de toute façon. Parce qu'il y a des raisons qui font que Buzz est tombé dans l'oubli. Hein. On va dire qu'il est plus très politiquement correct pour notre époque aujourd'hui, voilà. Mais tout ça, on va en parler. Moi, ce que je vous propose, parce que c'est encore eux qui vont le faire beaucoup mieux que moi, c'est d'entrer en contact avec les deux auteurs du livre, Séverine Danflou et Pierre-Julien Marest, au sujet donc de Busby Berkeley, l'homme qui fixait des vertiges, paru aux éditions Marest Éditeur. Donc, tout de suite, Séverine Danflou et Pierre-Julien Marest au micro de Culture Prohibée. Mais avant de revenir sur l'ouvrage, peut-être pour nos auditrices et auditeurs, peut-être présenter rapidement qui est Busby Berkeley.
Alors, Busby Berkeley, c'est le premier roi de la comédie musicale à Hollywood. On peut l'appeler comme ça. C'est quelqu'un qui va commencer, qui vient de Broadway, où il va apprendre chez Florence Ziegfeld, chez Earl Carroll, à mettre en scène donc théâtre des numéros dansants, des ballets avec des chorus girls, et qui arrive en 1930 et qui est tout de suite repéré à Hollywood et qui est tout de suite repéré par les producteurs, par Samuel Goldwyn, puis assez rapidement par Daryl Zanuck, Jack Warner. Pour la qualité de ses numéros et pour les figures géométriques assez délirantes dont il fait sa spécialité.
Voilà, et son extravagance, on appelle ça, aux États-Unis, ils appellent ça extravaganza, ses numéros. Un peu visuellement délirant, enfin voilà.
J'ai toujours été fasciné en fait par le travail de Busby Berkeley, et pour moi c'est le plus grand dans la comédie musicale avec Bob Fosse. Et Alain Masson en parle un peu dans la préface, mais en fait pourquoi il est tombé dans l'oubli comme ça, enfin la question peut se poser. Alors j'ai cru comprendre, c'est parce qu'il n'était pas politiquement correct, voilà, parce que il y a quelques années j'avais interviewé une autrice de livres sur la comédie musicale et j'ai senti que dès que je parlais de Busby Berkeley, ça bloquait, voilà.
Aujourd'hui, c'est vrai que c'est ce qui semble bloquer, mais c'est assez ridicule, hein, parce que pour le coup, peut-être tu veux dire un mot.
Oui, alors il va être critiqué dans les années 70 pour son emploi de la caméra unique, enfin qualifié de caméra phallique, ce qui est un peu absurde parce que effectivement, Berkeley a dit qu'il arrive sur un plateau de cinéma en 1930 pour Whoopi, il voit qu'il y a trois ou quatre caméras. Il demande à quoi ça sert. Et un technicien lui dit, bah, c'est pour le montage, machin. Parfois, il y a une caméra qui tombe en panne, comme ça, on peut... Et comme Berkeley, c'est dès le départ très exactement ce qu'il veut filmer, comment il veut cadrer et tout ça, il demande à ce qu'on retire, à ne tourner qu'avec une caméra. C'est pas une caméra phallique, c'est un type qui veut pas se faire écrire au montage.
Voilà, il dit I cut in the camera, donc je monte en filmant en fait. Donc il a pas du tout, cette idée-là. Et ensuite. C'est un peu agaçant en fait comme vision parce que oui, il représente les femmes, enfin les corps, pas que les femmes d'ailleurs, hein, les corps comme des objets, mais de fait c'est plus des figures géométriques, des lettres aussi qu'il forme. Et au fond, il invente un nouveau langage, un langage visuel, poétique en fait. Donc. Moi, je crois qu'il a été oublié, enfin, on est assez d'accord là-dessus, je crois qu'il a été oublié parce qu'à un moment donné, on est passé à un autre type de comédie musicale avec le numéro musical intégré. Et du coup, c'est Berkeley, c'est pas ça.
Voilà, c'est-à-dire qu'il y a Arthur Freed qui va monter en puissance à la fin des années 30, à la MGM. Berkeley va travailler. Arthur Freed avec Minnelli, avec Stanley Donen, avec Gene Kelly, enfin toute cette bande-là juge que les numéros de Berkeley qui ne s'incorporent pas du tout aux histoires des films sont dépassés, ils veulent renouveler le musical, le genre, ce qu'ils vont faire avec brio. Mais aussi en tapant sur Berkeley il y a dix ans presque les premiers numéros et les premiers films de Minnelli etc. Il y a 10 ans qui passent et en gros ils ringardisent à leurs yeux.
Voilà, enfin Gene Kelly commence chez Berkeley, son tout premier film c'est For Me and My Girl, un film que dirige Berkeley qui est à la MGM, hein, que Arthur Freed supervise bien sûr. Mais et il dit au fond pour lui, Minnelli dira la même chose. C'est un peu Berkeley, c'est un peu dépassé. Il voit ça comme quelque chose d'un autre temps. Ils veulent pas du tout ce genre de numéro. Ils n'aiment pas en fait ce genre de numéro qui sortent le spectateur complètement du film et qui ne sont que pur numéro gratuit, poétique, effectivement, c'est absolument basique visuellement.
Avec une technique imparable. Alors Minnelli va rester toute sa vie, moins dans ses mémoires assez dures avec Berkeley. Stanley Donen et Gene Kelly vont quand même mettre beaucoup d'eau dans leur vin et reconnaître, après avoir réussi eux-mêmes, que Berkeley a tout inventé. Enfin, c'est ce que Gene Kelly dit. Il dit que Busby Berkeley a tout fait. Quoi. Quiconque veut étudier le cinéma doit passer.
Doit regarder du Busby Berkeley.
Et Donen reconnaît aussi le génie total. Mais c'est vrai qu'eux, ils avaient leur idée d'un musical plus intégré, où les numéros s'intégraient à l'histoire. Et pour eux, les féeries, les fantaisies, au sens presque poétique, de Berkeley, c'était dépassé. Pas d'un point de vue technique, pas d'un point de vue cinématographique, d'un point de vue presque narratif, quoi. C'est ça qui les emmerde.
Voilà, et en fait, enfin, on peut reconnaître aussi que finalement, les films de Berkeley sont quand même très, très durs à trouver, comme tous les films des années 30, globalement, hein, quand même pas la période qu'on a le mieux distribuée et qu'on voit le plus facilement, alors que bah, voilà, les films de Minnelli, les films des années 50, où Donen Kelly, Chantons sous la pluie, tout ça sont des classiques qu'on revoit assez régulièrement et qui passent encore assez régulièrement sur les écrans. Là, nous, on doit un petit peu pour présenter Berkeley. Il y a quelques cinémas qui nous invitent pour présenter. Et en fait, il y a qu'un film qui circule, c'est 42e rue à peu près. Enfin, donc c'est aussi ce qui fait que Berkeley est un peu oublié.
Alors Berkeley, alors c'est parce que bon là on parle côté comédie musicale. Alors c'est d'ailleurs il y a une partie dans le livre qui aborde le sujet. Hein, donc ce livre qui s'appelle Busby Berkeley, l'homme qui fixait des vertiges, qui est publié chez Marest Éditeur. Il a aussi fait un énorme film noir, enfin un très grand film noir. C'est Je suis un criminel avec John Garfield, moi qui m'a marqué, qui était aussi un de ses films préférés à Busby Berkeley. Je pense que là il met tout le monde d'accord. C'est-à-dire il fait la preuve qu'il est un grand metteur en scène.
C'est effectivement un film qui en plus, on le relève avec Séverine, a une part autobiographique. Enfin,
ouais, ouais.
On sent que le sujet a pu l'inspirer parce que c'est aussi une histoire d'accident de voiture. Et Berkeley va avoir un accident de voiture qui va être assez dramatique parce qu'il va y avoir 3 morts.
Ouais.
Zemed Mio Criminal, je suis un criminel, effectivement, c'est un noir très, assez atypique, où Garfield était un film de boxe, où Garfield est un boxeur assez cynique, qui porte le chapeau pour un crime qu'il n'a pas commis et qui est obligé de fuir la ville, le milieu citadin. Et il se retrouve dans une espèce de communauté utopique, enfin où une femme recueille des ex-petits loubards new-yorkais, on imagine, et essaie de leur donner une deuxième chance. C'est un film de deuxième chance. Et on peut imaginer que c'est aussi une discussion entre Berkeley et sa propre culpabilité. C'est un film sur la culpabilité, sur le fait d'endosser un crime, d'être de la responsabilité d'un crime. C'est un très très bon noir. Et bon, de toute façon, c'est un film à Garfield, donc c'est forcément un grand film.
Oui, voilà, c'est un remake d'un film Warner, en fait. Et quand on voit l'original, on voit aussi tout ce que Berkeley a apporté en termes de montage, de nervosité. Et il n'a pas fait le même film du tout, en fait. Et le numéro du ballet aquatique, presque, on pourrait dire ça, c'est une scène d'accident, un peu ballet aquatique dans un réservoir. Il est magique, enfin, il a apporté cette espèce d'énergie, de nervosité qui n'était pas dans le film originel.
Et puis, alors, c'est souligné dans l'ouvrage aussi, hein, il ne faut pas oublier aussi que Busby Berkeley, c'est une époque très particulière parce que c'est l'homme de la transition avant et après le code Eyes. Inventeur de forme géniale qui arrive, par l'inventivité de sa mise en scène, en fait, à déjouer aussi la censure. Enfin, c'est très particulier comme époque.
Oui, alors effectivement, il arrive en 1930. Il est encore là en 34, c'est l'année d'application du code Eyes, mais il y a déjà un code qui est en vigueur depuis 1930, donc c'est des codes qui sont là pour le commerce, hein, qui sont là parce que les leaders religieux, surtout catholiques, les leaders de tempérament, menacent de boycotter les films trop osés.
Oui, dans certains États, on n'a pas le droit de faire ceci, dans d'autres, enfin,
voilà,
le code Eyes régule.
Il y a plusieurs censures qui s'exercent sur le cinéma, il y a aussi les censures européennes, alors ça c'est autre chose, mais Louis B. Mayer est très attentif à ce que pense Mussolini ou Hitler de ces films. C'est encore autre chose, mais voilà, les censures, si Hollywood, en tout cas, se prête à la censure, c'est souvent, enfin, c'est quasiment que pour des raisons économiques.
Oui, et après, au temps du pré-code, donc il y a déjà une censure, mais ils sont assez laxistes sur la comédie musicale, justement. Ils permettent des choses et ça permet à Berkeley, voilà, de faire des...
Alors Berkeley, l'érotisme, ça lui plaît. Il va tourner des trucs, alors comme Roman Scandals, où il y a quand même, il le raconte, il est seul sur le plateau avec Greg Toland, et il y a Usain Bolt qui est complètement nu, toutes les actrices sont complètement nues, elles sont couvertes par
leur... Les danseuses, elles sont nues, les chorus girls, elles sont nues parce que, en fait, le costume couleur chair qu'ils voulaient leur mettre... était atroce et on voyait trop qu'il existait ce costume couleur chair, donc ils leur ont demandé si elles acceptaient d'être nues sous leur longue chevelure. Elles ont une chevelure parure qui est inouïe et qui fait penser au surréalisme, effectivement. Enfin,
il y a des blagues très visuelles, très, très osées chez Berkeley. Il y a un fameux numéro dans une piscine où il y a une rangée de danseuses, deux rangées de danseuses qui s'en trouvent comme une braguette qu'on ouvrirait, qu'on refermerait,
et
qui va dans des blagues, une espèce d'érotisme à la Tex Avery, enfin des trucs complètement déments. Et c'est vrai que dans le... C'est un de ceux, voire celui qui va le plus loin.
Oui, c'est
dans...
pré-code.
Voilà, il va d'ailleurs être, alors peut-être à cause de ça ou à cause d'autre chose, mais il va quand même être sur les listes, les kill listes, enfin les listes de personnes à tuer pour les nazis américains, les Silver Shirts. peut-être à cause de et pourtant les quand on vous parliez tout à l'heure de Bob Fosse qui a réalisé un très très beau film Cabaret, qui est un peu le pendant des films de Berkeley dans les années 30, même si Cabaret est tourné bien après, ça se passe en 33. Cabaret, c'est l'année d'arrivée d'Hitler au pouvoir. Et d'ailleurs, sur le tournage de Cabaret, Busby Berkeley est présent. Mmh. Mais bon, enfin bon, je m'égare un peu. Mais.
Vous écoutez Séverine Danflou et Pierre-Julien Marest, co-auteurs de Busby Berkeley, l'homme qui fixait des vertiges, paru chez Marest Éditeur, au micro de Culture Prohibée. Le livre... Je ne l'ai pas dit depuis le début de l'entretien, mais il a une forme qui est très particulière. C'est-à-dire que donc, ce livre, je rappelle le titre, hein, Busby Berkeley, l'homme qui fixait des vertiges, c'est à la fois une biographie, c'est aussi un essai, évidemment, et qui prend par instant même des atours de fiction. Il y a des intermèdes, et il y a des dialogues imaginaires, comme dès le début du livre. Et en même temps, c'est aussi toute une histoire de l'Amérique, c'est-à-dire que c'est très documenté, on y croise des suffragettes dramaturges, on y croise des soldats, enfin c'est un livre pharaonesque, comment vous avez bossé à l'écriture de ce livre quoi ?
On a beaucoup lu, et on a beaucoup vu de films.
Ouais, on s'est beaucoup documenté, et en même temps on voulait que derrière Busby Berkeley, faire revivre aussi toute cette période de Broadway des années 20, le Hollywood des années 30, et remettre en lumière certaines figures complètement oubliées, voilà. Comme Alana Nazimova.
Évidemment, on s'est posé on a entendu quelques critiques qu'il y a pu avoir sur Berkeley. Il y en a d'autres, évidemment, sur le Blackface, et on s'est dit qu'il était important de recontextualiser à mort et de faire revivre ce monde. Voilà, on n'est pas dans les jugements moraux, on cache rien, et ce monde pouvait être complètement ignoble. Mais on n'est pas, enfin, on essaie en tout cas de jamais être dans le jugement, de ne rien cacher, mais de ne pas dire oh, c'est pas bien, enfin, de ne pas juger. C'était comme ça, on en pense qu'on en veut, ce qu'on veut. Voilà le monde dont on parle. C'était un monde où les patrons de studio étaient c'était des moguls, c'était des demi-dieux, en même temps des aristocrates à l'européenne, des demi-dieux, des mafieux. Enfin, c'était des gens, c'était hallucinant. Et puis c'est vrai qu'on s'est permis des écarts avec la fiction parce que Berkeley lui-même, toute son œuvre filmique dans les premiers temps, est toujours un pas de côté par rapport à une première fiction.
C'est ça, quand on a trouvé le mot Buzzland, au fond, quand on rentre dans le monde de Berkeley, on rentre dans un Buzzland, c'est son monde à lui.
C'est-à-dire qu'on peut regarder un film de Berkeley, un film dont Berkeley, voilà, pour expliquer en deux secondes, Berkeley, quand il tournait les numéros musicaux d'un film, il avait sa propre équipe technique. Il n'y avait pas de scénariste parce que les scénarios étaient dans sa tête. C'est pour ça que ces films étaient complètement déconnectés des films. Lui, il allait écouter une chanson et puis une chanson allait lui donner des images qu'il allait mettre en scène. Et il avait une liberté totale au début, absolument totale. Il faisait ce qu'il voulait, ce qu'en fait un pur auteur, au sens politique des auteurs, à Hollywood, peu ont tant de liberté que lui. Et donc, nous, on s'est amusés à dire que c'est vrai que parfois, dans les films qu'on voit, le film est acheté, sauf ce
qu'a fait. Quelques-uns, effectivement, sont assez poussifs. Ouais. C'est toujours l'histoire de ce qu'on appelle le backstage musical, le film de coulisses. C'est toujours l'histoire d'une jeune première qui veut réussir. Des fois, ça marche, c'est génial. 42e rue, c'est génial. Gold Diggers, 33, formidable. Puis il y en a qui sont très, très poussifs. Et tout d'un coup, il y a le numéro de Berkeley qui vient réenchanter tout ça. ça et qui est bouleversant. Enfin, c'est
ouais, assez et parfois, alors, dans Dames, Ryan Wright, qui est un de ceux qui nous fascine le plus, le film est très médiocre. Et arrive le numéro I Only Live For You de Berkeley, qui est pour moi le plus beau, le plus dingue, le plus fou. Et on change complètement de dimension. Quoi. Donc on s'est amusé à appeler ça Buzzland. Enfin,
voilà, et du coup, on se dit qu'on avait une latitude aussi d'entrer dans des mondes de fiction parfois, parce que c'est ce que faisait Berkeley aussi.
Et puis on avait envie, on se disait que ça serait bien qu'en tout cas, Berkeley avait sans doute des choses à raconter à Warhol, et inversement, donc on avait envie qu'ils se rencontrent. Bon, je ne crois pas qu'ils se soient jamais rencontrés. Il t'appelle carton avec Orson Welles. Andy Warhol a interviewé Ginger Rogers, mais l'interview n'est pas terrible dans l'interview. Mais bon, on voulait qu'il se rencontre parce que pour nous, Berkeley est un des.
Il avait des choses à se dire.
Voilà, il avait des choses à se dire.
Même le titre du livre, je trouve, il est à l'image de la forme choisie par le livre et de la poésie de Berkeley. Le titre du livre, L'homme qui fixait des vertiges, parce que Berkeley, grand créateur de forme, c'était l'homme des plans zénithaux aussi. C'est incroyable. Et dans le livre, on apprend quelque chose. Je ne sais pas tous les deux vous êtes allés chercher cette anecdote, mais il aurait fait en fait un vol en biplan en 1922-1923 qui l'aurait profondément marqué, d'où après cette folie là du plan zénithal qu'il va reproduire dans pas mal de films.
Oui, alors ceci, je ne l'ai trouvé pas dans la biographie, je crois, officielle de Berkeley. Je l'ai trouvé dans un entretien, long livre d'entretien.
Alors
en plus, pour nous, c'est génial parce que la ville, alors effectivement, il monte sur l'aile d'un biplan pour. Au-dessus de la ville de Paterson, qui est la ville. Alors, les amoureux de Jim Jarmusch connaissent maintenant le poète William Carlos Williams et son magnifique poème, son grand immense poème Paterson, à cause de ce film, qui est vraiment génial, avec Adam Driver. Berkeley est en biplan au-dessus de la ville. Il doit jeter des tracts publicitaires pour une pièce qu'il promeut. Et il se renverse sur l'aide de l'avion. Et là, il voit le monde à l'envers. Alors là, c'est notre interprétation. On s'est dit, il est en train de faire son premier Berkeley, en fait. Son premier plan zénithal.
Oui, parce que c'est devenu sa marque de fabrique, mais au fond, il y en a eu d'autres avant Berkeley. Et bon, après, forcément, mais il y en a eu d'autres avant Berkeley.
Le plus vieux, je crois, qu'on ait pu trouver, c'est un film de Loïs Weber Suspense, ouais, en 14, ouais, je crois. Il y en aurait eu un du chef-op de Griffith dans les usines de Chicago en 1908, enfin du futur chef. J'ai cherché partout, j'ai pas trouvé le fameux Top Shot. Donc le plus vieux Top Shot, c'est Plan Zénithal, et c'est en français ce qu'on appelle un Busby Berkeley aussi.
Faire
un Busby Berkeley, c'est faire un plan zénithal.
Mais en effet, c'est sa marque de fabrique, et on raconte qu'il crevait les plafonds des studios Warner, notamment pour aller toujours plus haut et filmer ces formes, ces espèces d'épingles de poing, enfin les corps qui deviennent de la matière, quoi. Enfin, voilà.
Ah, c'est ce que j'adore chez Berkeley. Tout à l'heure, je parlais de Bob Fosse aussi. C'est de la pure mise en scène. Il y a une foi dans le cinéma qui est totale, en fait. Ça fait du bien, ça lave les yeux de revoir des choses.
Ah oui, on est bien d'accord.
Donc,
il y a une perfection chez Berkeley dans les numéros.
Oui,
incroyable. C'est, du point de vue technique, même, il l'a inventé.
Il va inventer des plateformes tournantes, des balancelles, un flying trapèze. Enfin, il invente toutes sortes d'outils, alors qu'il n'est ni ingénieur. À vrai dire, au départ, il n'est ni cinéaste, ni chorégraphe, ni ingénieur. Mais voilà, c'est une espèce de touche-à-tout génial.
Ce qu'il a peut-être inventé, par contre, il a peut-être inventé un plan qui est très décrié, c'est le scratch shot, ce qu'on pourrait appeler le plan Périnée, qui est très connu par exemple par les amoureux des frères Cohen. C'est quand le Big Lebowski passe sous une arche de jambes de joueuse de bowling ou je sais pas quoi.
Oui, c'est
voilà.
Donc
c'est le plan qui passe sous une arche de. Bon, c'est Berkeley. Ça, je crois pas qu'il y ait eu de scratch shot avant Berkeley.
Berkeley, non.
Hein, même si aujourd'hui ça se passe pas du, voilà, du sexisme.
Mais il passe sous les jambes aussi des policemen. Hein,
Il le fait aussi.
Il le fait même avec les garçons. Hein,
voilà, mais les gens se souviennent plus de ces scratchs sous les jupes des filles que sous les pantalons.
Exactement. D'ailleurs, j'avais intitulé moi une question sous les jupes des filles. Hein, voilà, en référence peut-être à Souchon, je ne sais pas, mais c'est vraiment, je l'ai sous les yeux là. Oui, c'était un fétichiste des jambes, c'est abordé dans l'ouvrage.
Oui.
Et c'était vraiment quelque chose qui l'obsédait. Et puis il y a aussi ces plans domino là qui sont assez démentiel.
Oui,
bah, qu'il obsédait en même temps, on réfléchit là-dessus. En même temps, c'est aussi l'outil de travail de ces filles-là, des danseuses. Et voilà, et ces comédies musicales de l'époque tablent tout sur voir des jolies filles, comme Ziegfeld tablait tout sur voir les jambes des filles, des jolies filles. C'était aussi. Un hommage à Broadway, à un certain musical de Broadway qui jouait là-dessus, effectivement.
Bien sûr. Et alors, moi, je voulais pas vous quitter sans aborder quand même, c'est toute une partie du livre que je trouve absolument passionnante. C'est la deuxième partie du livre où il y a de nombreux rapprochements qui sont faits. Et tout à l'heure, ça a été abordé un peu, le lien avec le surréalisme, avec Magritte, ses longues chevelures et tout ça. Et les liens avec Arsène Boldo me sautaient aux yeux. Mais alors, les liens avec Pierre Molinier, j'avoue, je n'y avais pas pensé du tout. Ah, mais franchement, voilà.
Molinier, en compulsant un ouvrage de photos de Molinier qui est paru il y a 2 ans, 3 ans, enfin, un bouquin, un hommage à Molinier. Les collages de Molinier. Oui, moi j'ai. Enfin, on a choisi de toute façon le rapprochement en tout cas entre Berkeley et les surréalistes, il est fait par Arthur Freed. Donc, immense producteur, je ne sais pas si je l'ai bien défini tout à l'heure, mais tu vas être vraiment le grand producteur de musical pour la MGM.
C'est lui qui a écrit la chanson Chantons sur la pluie.
Qui a écrit voilà, en 1929, très, très, très avant qui dit que Berkeley est un surréaliste à Hollywood.
Qui s'ignore. Après, il y a une photo, à un moment donné, il y a un plan dans Golden Girls of 35, il y a un plan de Winnie Shaw qui se retourne et qui a une cigarette au bec et qui se retourne et qui devient une espèce de ville tentaculaire avec un fondu enchaîné. Et cette photo, c'est vraiment la photo de Man Ray. Donc, il ne pouvait pas ne pas l'avoir vue, ne pas connaître. C'est évident, comme les longues chevelures font penser à la longue chevelure.
Oui, en plus, c'est une photo de 22, je crois, de Man Ray, qui date de 22, qu'il a très probablement vue à New York.
Peut-être qu'il a juste vu et que ça l'a follement inspiré. Mais voilà, après, c'était pas, il se revendiquait pas des surréalistes, enfin il se revendiquait pas de cette esthétique là, mais elle est très très présente dans son cinéma, c'est évident. Même la part du songe, du rêve, de l'hallucination aussi, c'est très proche voilà, des rêves de Death Note. Enfin, nous on a rattaché à tout ça parce que ça nous paraissait évident, enfin. Et ça renvoie à notre idée de Liberté est un poète, puisque qui fixait des vertiges, enfin fixer des vertiges, c'est dans Une saison en enfer de Rimbaud. Donc on avait cette idée que voilà, cet homme-là, qui était l'homme de l'accident, du vertige permanent, et qui essayait de fixer des rêves en fait sur la pellicule, ça nous paraissait être un poète ultra moderne.
C'est pour conclure, d'où venaient ces idées, jasé, machin. Mais il y a plusieurs sources. Il se bourrait la gueule dans sa baignoire au Martini. Il se faisait ses propres mélanges de Martini, qui étaient, et apparemment les idées lui venaient là quand il bullait dans son bain en picolant.
Nous vous rappelons que l'ouvrage Busby Berkeley, l'homme qui fixait des vertiges, de Séverine Danflou et Pierre-Julien Marest, est disponible aux éditions Marest Éditeur. Et c'est pas un conseil, il faut absolument le lire. Voilà, parce qu'en plus d'être un ouvrage de cinéma passionnant, c'est un ouvrage qui a du style, donc un vrai bonheur de lecture. Et donc on vous souhaite bonne lecture et on vous dit à très bientôt. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee, et avec, à la technique, the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Magnin. Salut les gens, à la prochaine.